Bonjour Isabelle, si tu es d'accord, je vais te poser des questions sur ton rapport personnel à la colère. Est-ce que tu te mets en colère? Souvent, beaucoup, pas assez? Et qu'est-ce qui te met en colère? Quel genre de situation, quel type d'événement, de relation?
Bonjour Eric et merci pour tes questions. Merci pour ce thème qui pour moi est un thème très important, que cette émotion, sentiment de la colère pour moi fait partie constitutive de ma construction salvatrice, j'ai envie de dire. La colère, alors évidemment, hein, comme tu l'as introduite, on peut l'introduire de façon très différente, on peut en parler. Enfin, je veux dire, la colère, c'est horrible, la colère, c'est évidemment tout ce qu'on peut dire sur la colère, c'est un des sept péchés capitaux, tout ça. Mais ce que j'ai envie de te dire, qui pour moi est le plus important, puisque tu parles vraiment de façon personnelle, pour moi, donc pour moi, la colère, j'ai presque envie de dire que c'est l'émotion qui m'a sauvé la vie. Ça a été vraiment libérateur et salvateur. C'est ce qui m'a permis de réussir à me sortir d'un espèce de rouleau compresseur qui m'a au cours de toute mon enfance, qui m'a miné quelque chose qui aurait pu vraiment m'écraser à tout jamais si j'avais pas trouvé justement à réunir suffisamment de révolte, de rage, de colère à un moment, pour réussir à me sortir de ce rouleau compresseur de rejet, d'humiliation, d'écrasement, dans lequel je me sentais broyée, dans lequel j'ai été broyée, et qui aurait pu être, enfin, j'aurais pu rester coincée là-dedans et broyée à vie, j'aurais pu ne jamais m'en relever, j'aurais pu rester une larve toute ma vie, quoi. Et donc, cette colère, cette rage qui a mis beaucoup de temps à se constituer, hein, parce que ça a été vraiment. Elle vient de très, 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 très loin, cette colère. Elle s'est construite petit à petit parce que ça a été tellement en face, le rouleau compresseur, il était tellement important que j'aurais très bien pu rester, tu sais, comme un peu comme ces. Je sais pas, il me vient l'image de ces esclaves qui sont conditionnés depuis toujours à être esclaves et qui, du coup, n'ont même pas l'idée le jour où ils en ont la possibilité de se révolter, quoi. Je t'en parle de façon comme ça métaphorique parce que j'ai pas envie de psychologiser ni de te raconter spécialement ma vie, tu vois. J'essaye d'aller au plus juste en même temps. Et le plus juste, c'est que moi, pour moi, je dis mais merci aux ressources qui m'ont permis de trouver en moi cette colère et d'en fait cette d'en faire une force, d'en faire une puissance qui m'a permis de me relever, en fait, qui m'a permis de me relever et d'exploser et de par la puissance de quand j'ai enfin eu les moyens, petit à petit, en grandissant, de comprendre à quel point il y avait de l'injustice là-dedans, à quel point c'était pas normal tout ce que je m'étais pris dans la gueule, et à quel point je pouvais pas rester comme ça, sinon ben oui, j'étais plus qu'une serpillière à vie, quoi. Et non, non, je ne serais pas une serpillière, non, je ne serais pas Cendrillon, non, je serais capable moi aussi, je serais légitime moi aussi à porter une robe de bal comme les petites filles et à devenir une princesse. Le temps d'une soirée, comme toutes les petites filles en devraient en avoir légitimement le droit. Et cette immense injustice, et ben c'est la colère, cette immense colère que j'ai entretenue, que j'ai qui a je dirais qui a couvé en moi jusqu'à pouvoir quasiment, ouais, à l'âge adulte, hein, éclater et devenir une richesse, quoi. Parce que, évidemment, d'une manière plus anecdotique, là actuellement, si un jour je me mets en colère, ce sera pas forcément juste, ce sera pas forcément à bon escient. Ce qui me met en colère sera pas forcément mais ça me paraît moins important que la grande origine de la colère, du fond de colère qu'il y a en moi, que tu as pu évidemment ressentir en moi, sinon tu ne m'aurais pas interviewé, moi. C'est parce qu'en fait, c'est une colère qui vient justement, qui est viscérale, qui vient de très loin. Ce n'est pas une colère de surface, c'est une colère de. Ouais, comme ce que tu disais, c'était une colère constitutive, intrinsèque à moi, qui est vraiment, qui s'est construit, je dirais presque dans les méandres et parallèlement au fait qu'on m'a déchiqueté, quoi. Et parallèlement au fait qu'on me déchiquetait, en même temps, il y a eu quand on m'a laissé quand même suffisamment de moyens pour que je puisse réussir à trouver ça suffisamment injuste et dégueulasse pour pouvoir me retourner et en faire quelque chose. Mais je m'en suis pas, j'ai mis du temps à m'en rendre compte. Et ce qui m'a fait m'en rendre compte, en fait, c'est assez spécial. C'est grâce à une femme de théâtre, parce que j'ai commencé à faire du théâtre. J'étais adolescente, grande adolescente. La timidité est un mot trop faible. On me disait pusillanime, tellement j'étais ouais, d'une timidité maladive. Et je ne pouvais pas prendre la parole en public, ça m'était impossible. Et en même temps, je crevais d'envie de m'exprimer, de rire, tout ça, mais je n'y arrivais pas. Et on essayait du coup de me faire jouer des rôles de jeune fille timide, de jeune vierge effarouchée, ce qui était toutes les apparences que je donnais. La jeune vierge effarouchée, la jeune fille, la petite timide, la petite qui, voilà, est super réservée, qui ne se la ramène pas, toute gna gna. Et en fait, on n'arrivait à rien et j'étais nulle. Je faisais rien sur scène. Jusqu'à ce qu'une femme ait l'idée de me mettre dans les mains un texte d'une jeune fille qui se rebelle et qui sort un énorme sabre pour se rebeller contre la vie et qui a toute une diatribe, tout un texte comme ça de révolte en fait. Et il s'est trouvé que les gens étaient sur le cul et que c'est la première fois que je réussissais à exprimer quelque chose par la parole. Et on dit, mais tu sors d'où cette colère en toi? Et en fait, elle était énorme, cette colère. Elle était énorme, mais même moi, j'en avais pas conscience. Et c'est par le théâtre qu'en fait, j'ai pris conscience de ressources qui étaient complètement cachées au tréfonds de moi-même. Et que, voilà. Et du coup, qu'à partir de là, j'ai cultivé. D'abord par le théâtre, et alors après, donc, du coup, je me suis devenue la spécialiste des rôles de colérique, de femmes en colère, de femmes qui se rebellent, et ça m'a été très facile, et ça m'a été beaucoup plus facile de jouer des femmes en colère que de jouer des grandes amoureuses, par exemple. Ça, j'y arrivais pas, ça m'était. J'étais pas suffisamment épanouie pour ça. Il fallait d'abord. Avant qu'autre chose puisse s'exprimer, il fallait que la colère sorte. Et il y en avait de la colère, il y en avait de la colère, il y en avait, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Et cette colère, elle a été, mais vraiment, vraiment, dans mon cas, terriblement libératrice. Donc pour moi, c'est ça la colère. Voilà. Et c'est en ça que c'est important pour des gens comme moi. C'est voilà. Après, les gens qui sont systématiquement, le fait d'être systématiquement colérique ou tout ça, de s'énerver facilement. C'est l'autre chose et c'est pas ce que je veux. Et souvent, j'ai encore des fois ces espèces de vieux réflexes de m'énerver facilement, mais c'est autre chose. Et ça, je le souhaite pas. C'est quelque chose que j'aimerais par contre davantage contrôler. C'est autre chose. Voilà. Tu vois, je sais pas si tu vois la nuance entre une vraie colère profonde, viscérale et légitime. Et les espèces de colère du quotidien, les énervements, où là, par contre, je me sens pas forcément fière. Ah bah, Eric, je vois que apparemment, tu as écouté mes messages il y a pas longtemps. Et justement, là, j'y repensais et j'ai trouvé à répondre à la deuxième partie de ta question. C'est-à-dire que tu me demandais, qu'est-ce qui te met en colère? Et ben, en fait, très clairement et fondamentalement, c'est la tristesse. Parce qu'en fait, La colère, c'est une protection. En fait, quand on se met en colère contre quelqu'un, c'est une façon de pas être triste. Face, par exemple, enfin, chez moi, c'est très, très flagrant. C'est quelque chose que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé en psy. C'est-à-dire qu'en fait, pour se protéger, par exemple, je discute avec quelqu'un, puis j'ai l'impression d'absolument pas être comprise, et ça me désespère. Et plutôt que de lui dire ça me désespère et d'être désespérée et de ressentir ce sentiment de la tristesse qui est vraiment pas rigolo par définition, et ben en fait je vais me mettre en colère contre la personne parce que ça me protège de ma propre tristesse. Et souvent les gens colériques sont des gens tristes. Enfin voilà, qui ont un fond de tristesse et qui dissimulent en fait leur tristesse derrière de la colère. C'est pas forcément calculé, quoi. C'est une stratégie d'autoprotection. Voilà. Bon, voilà pour ce soir. Je vais essayer de dormir.
Merci pour ton témoignage. Je ressens cette nuance que tu exprimes entre la colère profonde qui est en toi et l'expression de cette colère. Pour continuer, j'aimerais entendre quel est ton ressenti intérieur quand tu te mets en colère. Est-ce que tu peux décrire ce que tu ressens dans tes pensées, dans ton corps, sur le moment, juste après, par la suite?
Eric, ne t'étonne pas que je te réponde à 3h20 du matin. J'ai des horaires, on va dire, qui peuvent être très décalés. Mais là, je me rends compte que je ne vais pas réussir à me rendormir si je t'exprime pas une petite partie. Parce que ta dernière question m'a amené des flots de fil en aiguille, des flots et des flots de réflexion et de nuances. Et je ne vais pas tout exprimer là, mais en tout cas, je vais commencer un petit peu. Ce que j'ai pu observer, que je ressentais physiquement dans la colère. Alors, justement, déjà, ce n'est pas si simple. Parce qu'il y a, je dirais, au minimum deux sortes de colère. Chez moi, ça va être on va dire, la colère froide et la colère froide et la colère chaude, quoi. Ou la colère noire et la colère blanche, si tu veux. Je pense qu'avant, quand j'étais très jeune, s'il y a de la colère qui s'exprimait, c'était de la colère noire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui explose d'un coup et qui n'est pas maîtrisé du tout. Donc, c'est physiquement un peu comme tout d'un coup une espèce de volcan qui entre en éruption, puis hop, quoi. C'est quelque chose qui m'arrive plus. En tout cas, qui est quelque chose que je maîtrise beaucoup mieux qu'avant. Ouais, qui m'arrive plus. Et surtout quand j'ai découvert la colère blanche, ce que j'appelle la colère blanche, c'est-à-dire justement c'est une colère qui vient de loin, qui petit à petit a mûri, et puis qui à un moment s'exprime. La personne type pour ce type de colère, c'est par exemple ma mère. C'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de très loin. Donc en fait ça va être une colère rentrée, maîtrisée. Contrôler, que je peux arrêter, quoi. Enfin, sauf si en face on me pousse dans mes gonds au maximum, ce qui est vraiment le piège absolu. Mais justement, maintenant, je sais me protéger de ça. Donc, en fait, ça n'arrive plus. Mais je sais qu'à une époque, ça provoquait vraiment des tremblements, ma voix qui tremblait, alors, rien à voir avec la voix que je peux avoir là en ce moment quand je te parle. Qui est plus une voie de shooter à la morphine. Ça n'a rien à voir. En fait, je te parle de souvenirs. Parce que en fait, je ne suis plus en colère. Je n'ai plus de colère profonde en moi. Enfin, si, mais c'est une colère qui va tout de suite arriver à une forme plutôt encore de petite indignation, mais qui a tellement fondu parce qu'il y a eu un tel travail chez moi d'acceptation. Et donc je suis plus dans cette autoprotection, j'ai plus besoin de me protéger en fait quelque part de cette colère. Je parle toujours de ces colères profondes hein, qui viennent de loin parce qu'en fait il y a une acceptation de ce qui est, de ce que je suis, de ce qui s'est passé et du coup il y a une forme d'apaisement et aussi une forme de tristesse puisque comme je te disais cette colère protège de la tristesse, Donc, par contre, je suis beaucoup moins protégée de la tristesse, mais je ne cherche pas spécialement à m'en protéger, parce qu'en fait, le travail clé, c'est l'acceptation, qui peut même, à des moments, peut même déboucher sur du pardon. La seule chose qui peut encore m'amener à me protéger de, on va dire, par exemple, de la tristesse, ça va être plus vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, en fait, si j'ai pas une confiance en l'autre qui est en face de moi, par exemple, si je te raconte un truc et que le fait que j'ai pas la protection du peps, de la colère, de l'indignation, de la révolte, j'ai pas ça, du coup, je vais me mettre très facilement à avoir des larmes. Et si je vois que toi, par exemple, ça te choque, ça te dérange, eh ben là, du coup, je vais me mettre en protection, mais plus par rapport à toi. Parce que je me dis, eh merde, il a du mal avec la tristesse. Mais pour moi, en fait, c'est aussi ça qui est subtil, c'est que la tristesse n'est plus une honte. On est construit sur une culture où pleurer, c'est quand même un peu la honte, quoi. C'est qu'on est faible. Et en fait, moi, j'en suis plus là. Et je pense que vraiment, c'est pas une faiblesse d'être triste et d'exprimer. Plus exactement, c'est pas une faiblesse d'exprimer cette tristesse. Et souvent, il serait bien plus sain et profitable de pouvoir exprimer sa tristesse plutôt que d'être en quelque sorte obligé de la muer en colère par peur du jugement, en fait. Si on allait directement dans la tristesse, eh ben on irait plus directement à l'essentiel de ce qu'on a besoin d'exprimer. Et on n'aurait pas besoin de passer par la colère et de faire des ravages autour de soi. J'essaye de faire ça en résumé, c'est pas évident. Je vais essayer de quand même m'en tenir à strictement ta question. Et physiquement, ben, ça peut être, comme je te disais, ça peut être soit très crispant si la colère est mal maîtrisée, soit derrière la colère, si derrière la colère, il y a enfin la tristesse qui se dégage, et ben, au contraire, ça va épuiser sur le moment, ça va faire un espèce d'épuisement physique, mais qui va faire du bien derrière.
Merci. Tu m'as parlé de l'origine profonde de ta colère, comment elle t'a aidé à pouvoir t'exprimer, de sa capacité de transformation d'un état de tristesse profonde, de l'acceptation comme clé de transformation. J'entends aussi que cette colère vient d'un sentiment d'humiliation, d'injustice, d'indignation. J'aimerais savoir quels sont les actes ou les comportements à une échelle individuelle, mais aussi plus globale, qui te font réagir, qui te donnent envie d'agir.
Très très bonne question ça. Qu'est-ce que c'est qui me donne envie d'agir, qui font que je peux réagir? Eh ben en fait, je dirais c'est l'autre. Parce que je crois que quand on est seul dans son coin avec tout ce qu'on peut vivre, traverser comme épreuve, comme chose moche et tout, même si on a le sentiment que c'est pas juste, que ça devrait pas être comme ça, qu'on ne devrait pas être traité comme ça, tout ça, c'est, je dirais, presque impossible de trouver les ressorts, justement, les ressources, la bonne réaction pour réagir comme il faut seul. En fait, on a besoin, à un moment ou à un autre, on a besoin que ça vienne de l'extérieur. On a besoin d'une stimulation extérieure. Il me semble que dans mon cas, ça a toujours été le cas, parce que sinon, c'est extrêmement difficile de se sentir légitime quand on a l'habitude de se sentir outragé, humilié, écrasé, tout ça. Ça devient une habitude, ça devient une sorte d'acquis, ça devient une sorte de système, et ça revient, c'est tellement, ça devient presque quelque chose de normal en fait. Donc, du coup, on ne peut pas vraiment le remettre en question, même si dans le fond, du fond, du fond, on sait que ce n'est pas juste, on n'arrive pas à trouver les ressorts. Donc, effectivement, qu'est-ce que c'est qui va faire que ça va être possible? Ça va être l'autre. Dans mon cas, ça a été beaucoup, je pense, grâce à mon frère. Je dirais, heureusement que j'ai pas été fille unique. Heureusement qu'on était deux et que du coup, déjà, rien que dans la comparaison, puisque on n'a pas été traités de la même façon, mon frère et moi, et que le jour où j'ai enfin compris que même lui trouvait ça pas juste, en tant que petit frère, même lui trouvait ça pas juste et pas normal et très bizarre que je sois traitée beaucoup plus mal que lui, là, ça m'a donné un appui, une légitimité pour me dire, ah, donc c'est pas moi qui suis folle, j'ai raison d'être outragée, j'ai raison d'être indignée, d'être révoltée, donc je peux le faire, puisque c'est sûr. C'est pas juste quoi. Et après, ouais, la comparaison avec les autres, alors ça peut être à double tranchant, la comparaison, c'est très dangereux aussi, mais quand en fait tu as des gens qui vont te stimuler et te dire mais c'est pas normal, c'est pas normal que ce soit comme ça, qu'on te comporte comme ça avec toi ou que tu te comportes comme ça, ça va pas. Il y a eu mon frère, il y a eu une autre personne dans mon jeune âge adulte, par exemple, c'est Pascal, ma fameuse amie Pascal dont je t'ai souvent parlé. C'était la première, je suppose, qui a appuyé là-dessus, qui m'a dit, mais arrête, arrête de toujours de te sentir tout le temps victime. Parce que effectivement, bah, j'étais une victime. Le problème, c'est que quand t'es enfant, t'es forcément une victime. Mais quand tu grandis, eh ben, t'es plus obligé de rester dans ce. Finalement, ça devient un rôle. Tu y restes parce que tu en as pris l'habitude, quoi, et que tu n'arrives plus à faire autrement. Parce que c'est devenu vraiment une façon d'être. On appuie là où ça fait mal, bah, t'as mal et tu souffres et tu t'en plains. Voilà. Là, tu es victime. Parce que tu n'as pas eu les stimulations normales qui vont faire que bah, là, j'ai mal, donc donc je crie, ou donc je repousse, ou donc je. Enfin voilà, toutes tes réactions normales face à une situation d'abus, quelle qu'elle soit. Or, c'est la première qui a appuyé là-dessus et qui m'a fait vraiment me poser les bonnes questions et me rendre compte qu'effectivement, il peut y avoir au bout d'un moment une forme de complaisance dans ce rôle de victime. Et à partir de là, enfin voilà, c'est tout un ensemble de choses qui fait que, ben, du coup, la colère, elle devient légitime. Et on se dit, mais en fait, c'est normal que je sois indignée. Que je ressente une telle humiliation, une telle indignation, et c'est normal que je me révolte parce qu'en fait, ce qu'on me fait n'a pas été normal. Donc, il faut que j'arrête de me laisser faire. Et surtout, il faut que j'arrête de me plaindre et que je me mette dans une situation ouais, de réaction, quoi. Au départ, c'est que de la réaction. Voilà, c'est ça. Et c'est ça aussi qui fait que c'est très difficile aussi pour les autres au départ, c'est que c'est que de la réaction. Donc, on va être outragé, indigné, en colère en permanence, on va se révolter en permanence, et du coup les autres ils vont en prendre plein la gueule. Parce qu'en fait on ne sait pas faire autrement au départ, parce qu'on n'a pas eu les outils, on va dire, normaux pour se comporter, pour se défendre de façon normale. Voilà. Je ne sais pas si je t'ai répondu, en tout cas j'ai essayé de la façon la plus globale possible, et là faut que je m'arrête parce que ouais, là, j'ai vraiment des grosses douleurs à l'estomac. Alors, je ne sais pas si c'est lié l'émotion. Je vois en ce moment, c'est très intéressant, une psychomotricienne. C'est très intéressant à quel point, par des tout petites actions physiques, elle te fait mettre le doigt sur le lien entre l'émotionnel et les douleurs, en fait. Et à quel point ça peut être incroyablement lié. Et là, je sens que, tu vois, je te parle de ça. Et j'ai une espèce de douleur au niveau de l'estomac qui est en train d'enfler là. Alors peut-être ça a un rapport, hein, parce que tout ça, c'est quand même très des sujets qui sont, tu vois, vachement sensibles. Et non, et pas, et pas, et pas, et non en lien avec tout ce que je traverse en ce moment.
Les mécanismes de nos émotions semblent agir de façon directe et automatique. Comment peut-on faire évoluer nos façons de réagir? Tu as évoqué la place de l'acceptation. À ton avis, quelles ressources peut-on chercher et activer en soi?
Alors là, Eric, ta question est vraiment très lapidaire, très courte, donc pas évident d'y répondre. Comment ne pas réagir, justement, comment ne plus être dans la réaction, comme tu disais, passer de la réaction à quelque sorte à l'acceptation pour passer à autre chose. Et ben, c'est vraiment quelque chose de pas évident. Et justement, tu poses ça sur une minuscule question, alors que c'est peut-être une des choses les plus longues à mettre en place. C'est le plus long travail qu'il y a à faire dans une vie pour mettre ça en place, pour passer de cette réactivité pure à une réflexion de longue haleine qui amène à l'acceptation. C'est pas vraiment pas facile tout ça. Je dirais qu'avant tout, ça va être le constat, une forme d'échec de la réactivité. C'est-à-dire que si on est tout le temps dans la réactivité, eh ben, on en met plein dans la gueule aux autres et on s'en prend plein la gueule aussi. Parce que en fait, les gens en face n'acceptent pas du tout cette réactivité parce que c'est trop violent, c'est trop disproportionné. Et en fait, ma réactivité, elle va être en fonction de choses du passé qui, eux, ne les concernent pas. Puisque moi, je vais réagir, c'est une partie de moi très ancienne, mettons une partie de ma petite fille blessée, qui va réagir face à une réflexion d'aujourd'hui qui n'a plus rien à voir avec le schmilblick. Et du coup, les gens vont se demander pourquoi je réagis aussi fort, aussi vite, aussi brutalement. Et ils vont se dire quand même, allez. Elle est à moitié starbée, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est déjà bien réaliser ça et réussir à prendre du recul pour ne pas être systématiquement dans la réactivité. C'est en parler à tête reposée aux gens pour qu'ils comprennent, pour justement les aider à ce qu'ils comprennent la différence entre ma réactivité extrême du moment. Et ce qui se passe maintenant, et les enjeux actuels qui sont différents, et leur faire comprendre que là, il y a vraiment quelque chose de lourd qui ne les concerne pas finalement, mais qui pour moi sont des caps presque infranchissables et qui vont demander, là, pour la plupart du temps, hein, pour arriver à s'en sortir, en fait, d'être accompagné. C'est là que là, c'est à ce stade-là, je dirais qu'il y a un accompagnement professionnel qui est presque indispensable. Quand on en est là, parce que sinon c'est vraiment trop difficile de faire la différence entre le présent et le passé, quoi. C'est un stade que je constate chez moi et que je constate chez des millions de gens autour de moi, c'est-à-dire des millions de gens qui réagissent, qui sont vraiment dans de la pure réactivité et qui n'arrivent pas à défaire le lien entre des choses, des blessures très anciennes et qui sont devenues des failles béantes et qui n'arrivent pas à démêler. Donc, ils n'arrivent pas à démêler le passé du présent. Et là, vraiment, c'est que à ce stade, ben, sans aide de professionnels, alors, c'est pas forcément des psychanalystes ou des. Enfin, il y a plein de formes d'aide, mais en tout cas, des gens qui sont vraiment très affûtés, très aiguisés et qui peuvent t'aider à démêler les nœuds du passé de ceux du présent et à alléger et à ne pas revivre à chaque fois des traumas d'enfance, à chaque fois qu'il y a des failles qui se réveillent, quoi.
Merci vraiment de partager ton expérience et toutes tes réflexions. Peut-être, si tu veux bien, évoquer ton ressenti face à la colère des autres.
Bah écoute, c'est quelque chose qui a évolué pas mal ces derniers temps, parce que justement, moi, j'ai fait vraiment un gros travail là-dessus. Et du coup, je perçois mieux aussi ce qui se passe chez les autres. Évidemment, c'est variable, hein, mais je dirais que j'éprouve une forme de, à la fois de commisération, de compassion qui peut aller jusqu'à de la pitié des fois, de voir à quel point les gens se font avoir complètement dans leur propre piège, dans le propre piège de leurs blessures d'enfance et qu'ils n'arrivent pas à s'en dépatouiller, même en croyant parler de choses du présent, et même dans des sphères, ça va loin, même dans des sphères politiques, dans des sphères sociales, dans des gens qui sont dans des collectifs, dans des trucs qui dépassent complètement a priori le cadre intime et qui pourtant se rendent pas compte à quel point ils sont conditionnés par ce que tu m'as fait, maman, quand j'avais 6 ans, ce que tu m'as dit, des choses comme ça, et qui va amener à toutes les justifications possibles et imaginables dans le présent qui malheureusement n'ont plus lieu d'être. Et c'est vraiment, des fois, c'en est pathétique, quoi. Et des fois, ça amène vraiment à beaucoup de mauvaise foi. Et c'est dommage, c'est très très dommage parce que ça, ouais, ça conditionne trop, je trouve, les rapports humains d'une façon faussée. Mais il y a même des fois où moi, je trouve que c'en est drôle, c'en est grotesque, quoi. Il y a des fois où, dans des réunions de gens très sérieux et tout ça, mais j'ai eu envie de rire, de voir des gens très sérieux, la façon dont ils réagissaient, dont ils me mettaient sur leurs grands chevaux pour des trucs politique ou autre, alors qu'en fait c'est juste une espèce de, alors maintenant on emploie le mot ego, de trucs comme ça, mais qui viennent de blessures d'enfance et qui faudrait qui serait tellement bien qui regardent d'abord du côté de leur propre enfance et de leurs propres blessures avant de mettre tout sur le dos de telle partie de la société ou d'être dans d'une mauvaise foi du coup qui va justifier n'importe quoi, quoi. D'un côté de ça, ça peut être très très beau aussi, très très triste aussi, parce que c'est pas forcément de la mauvaise foi. Les gens, des fois, sont persuadés de très bonne foi, du bien fondé de leur colère dans le présent. J'ai pas la vérité infuse du tout, mais il y a des fois où c'est quand même vachement flagrant. Et puis, il y a aussi ce ressenti que j'ai de la colère des autres, que c'est qu'une comment dire, c'est qu'une apparence. C'est en fait, c'est de l'impuissance. C'est le fait, ben, je me mets en colère parce qu'en fait, dans le fond, ce que je voudrais, c'est imposer mon point de vue, parce que je pense que c'est comme ça, et allez tous vous faire foutre. Et je peux pas imposer mon point de vue, donc ben, je me mets en colère, quoi. Et gna gna gna, voilà, puisque c'est comme ça. Et attends, j'ai du problème technique. Mais des fois aussi, je ressens le fait que ce serait bien d'arriver à mettre un tout petit peu de distance entre la colère et soi-même, ça, de décoller un peu les choses. Ça m'a fait une fois, il y a longtemps, hein, il y a plusieurs années, où il était super en colère, il prenait tout mal. Et moi, à un moment, j'ai eu envie de rigoler parce que je voyais derrière, je trouvais ça un peu pathétique, un peu grotesque parce que. C'était, enfin, de mon point de vue, c'était ridicule la façon dont il se mettait en colère par rapport à l'enjeu. Et lui, il ne le voyait pas du tout et il s'est mis encore plus en colère. Et c'est dommage parce que moi, je voulais pas me foutre de sa gueule. Bien au contraire, je voulais essayer de le décoller de sa propre colère. Et ça a fait l'effet inverse. Et voilà, donc c'était encore une fois un malentendu et c'est bien dommage. Et le but, ce serait avant tout. C'est ça, d'arriver à se décoller de ses émotions pour arriver à mieux les comprendre, mieux les accepter chez soi, chez les autres. Et voilà, et c'est pas un drame, quoi. Et la colère, c'est pas un drame. Et en fait, c'est ça, moi, c'est que je vois que la plupart des gens voient la colère comme un drame, alors que en fait, ça l'est pas forcément. C'est même une façon de dédramatiser les choses, la colère. De mettre de la distance entre soi et son émotion, ça dédramatise. Alors c'est dommage que ça puisse faire l'effet inverse chez les gens qui oh, au secours, la colère, c'est l'horreur, c'est la guerre, tout ça. Alors qu'en fait, souvent non, c'est juste un défouloir et c'est pas grave quoi, souvent. Je te livre les choses un peu là, pêle-mêle, surtout que je suis un peu emmerdée par ces histoires de techniques qui n'en finissent pas. T'entends des machines là qui veulent pas, qui m'énervent. Enfin bon, voilà quoi, c'est un sujet sans fin, hein, Eric. Et je sais pas si comment t'as envie de continuer et si t'as envie de continuer de quelle façon. Là, c'était une sorte de débroussaillage quoi. À très bientôt.